9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, beau week-end. Le Haut Commissariat au Plan a publié cette semaine un rapport très attendu sur le déficit de notre balance extérieure. François Bayrou, le haut commissaire en personne, y compare la France à un pays sous-développé. Il est mon premier invité ce matin. Et puis vous avez entendu Anne Hidalgo et Arnaud Montebourg demander une primaire, appeler à l'union. Il faut dire qu'à eux sept, les candidats de gauche ne représentent qu'un quart des intentions de vote. J'ai donc invité Adélaïde Vulfi-Karpazic, la directrice de BVA Opinion. Je vais lui demander où sont passés les électeurs de gauche. Et l'on terminera l'émission avec Fabrice Epstein. Il est avocat et il publie Rock'n'Roll Justice. C'est la première histoire du rock sous l'angle judiciaire. Les plagiats, les scandales, les procès, les affaires de drogue, tout y est relaté en détail.
Europe 1.
François Bayrou, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Le Haut Commissariat au Plan vient de présenter un rapport attendu sur notre commerce extérieur. Vous parlez carrément d'effondrement.
C'est la vérité. Il suffit de prendre les chiffres. En l'an 2000, nous sommes positifs et bien placés dans le classement des pays européens. Et 21 ans après, nous sommes très négatif et très loin dans le classement des pays européens. Je vous donne les chiffres. Cette année, nous serons entre 70 et 80 milliards de déficit. Les Allemands sont à 200 milliards d'excédents. Et il est à craindre que l'année prochaine, les résultats soient encore plus inquiétants, puisque certains parlent de 95, 96, allant vers 100 milliards de déficit. Et peut-être que personne ne fait attention à des chiffres comme ça qui passent, mais moi je veux rappeler que 1 milliard, c'est 1000 millions d'euros. Si vous avez 80 milliards de déficit, ça veut dire que votre pays a 80 000 millions d'euros de déficit par an. Alors ce sont des chiffres qui donnent le vertige, mais qui sont une représentation assez fidèle de la capacité de la France à créer et à exporter.
La comparaison avec l'Allemagne, dites-vous, est éclairante parce qu'il n'y a pas de différence entre ces deux pays sur le coût du travail et qu'ils ont la même monnaie et le même niveau technologique. Or, en 20 ans, le commerce extérieur français a généré un déficit cumulé de 900 milliards. On est encore plus grand là. Alors que sur la même période, l'Allemagne accumulait un excédent de 3 900 milliards d'euros. Comment vous l'expliquez ?
La France, depuis 25 ans, depuis 20 ans, en réalité, a accepté l'idée que la production n'était pas tellement fait pour nous. Que l'industrie, tout ça, ça faisait un peu de notre temps. Que l'agriculture elle-même ne devait plus susciter l'attention du point de vue de la production. C'est tout ça qui s'est cumulé au travers du temps. Et pendant longtemps, nous avons entendu beaucoup de remarques ou d'observations qui paraissaient frapper au coin du bon sens. Par exemple, on nous disait, mais on ne peut pas faire l'industrie, mon bon monsieur, puisque vous savez, en Extrême-Orient, le coût du travail est peut-être 10 fois moins important que le nôtre ou 5 fois moins important que le nôtre. Première observation. Il y avait une deuxième observation qu'on a entendue tellement souvent, c'est que les gens disaient « mais on a une monnaie, l'euro, qui est beaucoup trop forte ». Or, si vous regardez les pays qui nous entourent, l'Allemagne, l'Italie, même l'Espagne, les Pays-Bas, si vous regardez ces pays-là, le coût du travail chez eux n'est pas en moyenne plus bas que le nôtre, et ils ont la même monnaie par définition que la nôtre. Et donc, il y a une interrogation à conduire, que le gouvernement a commencé à conduire, ce gouvernement a commencé à conduire, c'est-à-dire qu'il a baissé, par exemple, les impôts de production, il a essayé de rendre plus équitables les conditions de production. Mais sur le fond, notre défaite en matière de commerce extérieur, elle vient de ce que nous avons abandonné des secteurs entiers de la production. Et nous les avons abandonnés. Pour moi, ça me frappe beaucoup. Nous les avons abandonnés, en fait, quasiment sans raison. Parce que si nous étions un pays dépassé technologiquement, ne connaissant pas les procédés pour produire à la pointe, étant incapable d'avoir des brevets, des recherches de qualité, on comprendrait qu'on soit ainsi laissé de côté. Mais ce n'est pas du tout le cas. Un pays qui s'est fabriqué des satellites, des fusées pour les lancer, des avions qui sont les premiers au monde, des sous-marins qui sont les meilleurs du monde, y compris des sous-marins nucléaires, qui s'est fabriqué des centrales de production d'électricité nucléaire, qui est capable d'être en pointe sur des sujets qui sont comme la chimie ou la pharmacie. Comment se fait-il que ce pays-là ne soit pas capable de produire ce qui constitue la base de la pyramide ? Je dis toujours pour faire sourire, on sait faire des satellites et des fusées, mais on ne sait pas faire des machines à laver. Or, tout cela, si on l'analyse, et c'est ce que nous avons voulu faire avec le plan, je crois que c'est une étude inédite, nous avons nous-mêmes sorti ces chiffres, en travaillant en particulier avec les douanes, nous avons isolé plus de 900 postes de déficit supérieurs à 50 millions. Et si on prend poste par poste ces déficits-là, alors on se dit qu'il y a beaucoup de secteurs qu'on pourrait reconquérir. C'est vrai en matière industrielle, c'est vrai en matière agricole. En matière agricole, nous avons sorti une étude. Un de nos collaborateurs a calculé que pour la ratatouille, vous savez, il y a 5 légumes, je crois, pour la ratatouille, les poivrons, tomates, etc. La composition de la ratatouille, c'était 600 millions ou 650 millions de déficit. Qu'est-ce qui explique que la France puisse pas produire des légumes comme ça ? Ceci oblige à étudier de près à la fois les secteurs dont nous sommes absents indûment. Je ne parle pas des secteurs dont nous sommes absents simplement parce que nous ne pouvons pas avoir les matières premières. Nous sommes très déficitaires dans le secteur des hydrocarbures. Ben, on n'a plus d'hydrocarbures dans notre sous-sol. On en a eu. Il y a eu le gaz de lac. Il n'y en a plus. Alors ces secteurs-là, je les écarte. Mais les autres, ce sont des secteurs où, en raison de notre niveau technologique, industriel et de recherche, nous devrions être présents. Bon, et c'est à quoi invite cette note.
On fait une pause, François Bayrou. On se retrouve juste après. J'ai encore d'autres questions à vous poser.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec François Bayrou, le haut-commissaire au plan, le rapport du haut-commissariat sur le déficit du commerce extérieur vient de paraître. Il est assez catastrophique. Vous y dites, François Bayrou, qu'aujourd'hui, dans de nombreux secteurs, la France a une économie de pays sous-développés. Et vous l'expliquez, hein, la France, par exemple, est le premier exportateur mondial de pommes de terre. Mais nous sommes gravement déficitaires sur les chips et les flocons de purée, c'est-à-dire les pommes de terre transformées.
Quand nous étions collégiens, on apprenait ça au collège. On apprenait qu'un pays, on ne disait pas encore en voie de développement, un pays sous-développé, c'était un pays qui produisait des matières premières. Et ces matières premières, il les rachetait sous forme de produits transformés. Alors sur les pommes de terre, c'est un exemple extrêmement frappant parce que vous n'allez pas me dire que le niveau de technologie nécessaire pour faire des chips dépasse les capacités françaises. On a d'ailleurs quelques producteurs de chips. Mais je prends l'exemple du bois. Nous sommes une forêt très importante en Europe, la deuxième forêt d'Europe. On est des exportateurs de bois qu'on appelle ronds, c'est-à-dire de troncs d'arbres. Mais évidemment, tout cela, on le rachète sous forme de meubles travailler, et nous sommes les clients de ceux qui achètent notre matière première. Or, il n'y a pas, de ce point de vue-là, un gap, comme on dit, une différenciation technologique telle qu'on ne puisse pas. En réalité, on a baissé les bras sur beaucoup de ces sujets. On a considéré que peut-être c'était pas assez noble, ou que c'était fait pour les autres, ou qu'on n'y arriverait jamais. Or, nous sommes à un moment, permettez-moi, je voudrais insister sur ce point, un moment clé et peut-être le dernier moment pour rattraper notre retard. Pourquoi ? Premièrement, parce que les modes de production sont en train de changer. La robotisation, je pense aux produits électroménagers, la robotisation, on le voit dans le domaine des usines automobiles, les algorithmes, tout ce qui permet d'automatiser la production peut faire marcher les machines 24 heures sur 24 et avec un niveau de qualité, d'exigence tout à fait élevé. Donc le tournant de l'automatisation et de la robotisation peut remettre les choses à égalité. Deuxièmement, nous sommes à un moment où le traitement des données, la numérisation des choses, des études, du travail de recherche est telle que là encore, nous sommes au premier rang et nous pouvons donc profiter de ce moment pour rattraper le retard. Il y a une troisième raison qui est très importante, c'est la préservation écologique et, par exemple, l'immense bataille climatique. Cela exige une énergie qui soit une énergie, et cela exigera de plus en plus, une énergie qui soit une énergie bas carbone, qui ne produise pas de CO2. Or, la France est précisément, parce qu'elle a ce passé dans la production d'électricité dans les unités électronucléaires, parce que nous avons ce passé, nous sommes les mieux placés en Europe pour produire de l'électricité zéro carbone, quasiment zéro carbone. Alors que tous les autres, comme vous le savez, sont en train de recommencer toutes les bêtises du monde avec le charbon, d'autres réservent un monopole au gaz, tout ce qui est émission de CO2. Si nous ajoutons ces trois facteurs-là, changement des processus de production, numérisation et bas carbone, alors nous sommes devant la possibilité de prendre le nouveau train qui va partir du point de vue de la production. Parce que les circuits courts, par exemple, le fait qu'on ne veuille plus de produits qui viennent de l'autre bout du monde en polluant l'atmosphère dans les océans, cette nécessité-là de trouver des productions près de chez soi, puis aussi c'est un signe culturel de qualité, nous donne l'occasion, et c'est peut-être la dernière occasion, je répète cette phrase, hein, c'est peut-être la dernière occasion de rattraper notre retard, à condition qu'on le veuille et qu'on se dote des moyens politiques nécessaires.
Il ne nous reste qu'une minute, François Bayrou, mais vous dites également que si on ne rattrape pas ce retard, c'est un grave danger pour l'avenir et pour les générations qui viennent, hein, et qu'il y aura des conséquences sur le plan social pour toute la société.
Ah mais ça n'est pas un danger, c'est une certitude. Si nous ne rattrapons pas ce retard, nous ne pourrons pas soutenir le contrat social français. On est dans un pays où tout est gratuit, l'école est gratuite, la santé est gratuite, en tout cas est assumée par la collectivité. La santé est gratuite, la retraite est garantie à tous, le chômage est garanti à tous les salariés. Tout cela, évidemment, coûte très cher et ce coût de notre contrat social ne peut être assumé que si nous avons des contributeurs assez nombreux, c'est une question de démographie, et avec une production de richesse nationale qui nous permet de financer cette solidarité à laquelle nous tenons beaucoup.
Merci François Bayrou d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Je rappelle que ce rapport donc sur le déficit de notre commerce extérieur vient d'être rendu par le Haut Commissariat au Plan et il est disponible sur le site du gouvernement. Merci encore François Bayrou. On fait une pause, on se retrouve dans un instant avec Adélaïde Zulfi-Karpazic, les directrices chez BVA. Je vais lui poser une question simple, où sont passés les électeurs de gauche ?
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
L'élection présidentielle, c'est pour bientôt et les 7 candidats de gauche, Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Arnaud Montebourg et Yannick Jadot se disputent un électorat de plus en plus réduit, un quart des intentions de vote, 26,5%. 5% au total, selon le sondage BVA publié hier. Adélaïde Zulfi Karpazic, bonjour. Vous êtes
bonjour.
Directrice chez BVA, où vous supervisez l'ensemble des sondages d'opinion. 26,5%, enfin un quart des intentions de vote, c'est historique. Non, la gauche n'a jamais été aussi basse.
Alors la gauche n'a jamais été aussi basse, mais elle a quand même été très basse, il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, il y a un effet un petit peu déformant lié aux circonstances, si je puis dire, parce que quand on regarde, en fait, on l'a oublié, mais au premier tour de 2017, finalement, la gauche cumulée a fait 27,5%, donc c'est pas beaucoup plus faible que ce qu'on observe actuellement, mais ce qui, en fait, aujourd'hui donne cette impression de niveau vraiment extrêmement bas, c'est l'éclatement encore plus fort entre différents candidats, puisque au premier tour de 2007, on avait 27,5% répartis entre 4 candidats seulement, dont un, Jean-Luc Mélenchon, avait fait un gros score, quasiment 20%. Là, on a 26,5%, mais répartis entre 7 candidats, donc presque le double. Et donc, ça fait plein de petits scores et donc une impression générale d'une gauche très faible.
Mais on pourrait ajouter qu'en 5 ans, il y a eu quand même le mouvement des Gilets jaunes et la pandémie de Covid, deux événements dont la gauche n'a pas su profiter, donc.
Oui, exactement. C'est vrai que ce qui est frappant, c'est la difficulté de la gauche à se reconstruire pendant ce quinquennat. Et ce qui est plus frappant encore, c'est que vous l'avez dit, il y a eu la crise des Gilets jaunes qui a mis en avant la question du pouvoir d'achat, la question des inégalités sociales, qui sont des thématiques qui reviennent assez fortement sur devant de la scène. Il y a la question sanitaire. Et d'ailleurs, dans notre enquête, celle dont vous parliez tout à l'heure, qu'on a publiée hier, quand on interroge les Français sur les critères de choix au moment de voter le 10 avril prochain, il nous cite d'abord justement ces questions de pouvoir d'achat, de santé, avant la question de sécurité. Et très vite derrière, il nous cite des thématiques qui sont vraiment des thématiques de gauche. La question de la pérennité de notre système de protection sociale, il nous parle d'éducation. Et donc des thématiques vraiment qui pourraient être investies par la gauche et qui pourtant n'arrivent pas à imposer sur l'agenda médiatique, dans le débat public, ces thématiques. C'est assez frappant.
Anne Hidalgo et Arnaud Montebourg, donc, qui sont tous les deux tombés très bas dans les intentions de vote, ont proposé cette semaine une primaire de toute la gauche. Ils ont eu une fin de non-recevoir, un refus catégorique même de Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. Vous parliez de l'émiettement des candidatures. Est-ce que s'ils se rassemblaient, est-ce que ça changerait quelque chose à votre avis ?
Ça pourrait en tout cas insuffler une dynamique parce qu'on a bien vu, on parlait à l'instant justement de la question des thématiques et de la difficulté de la gauche à tirer profit d'un quinquennat qui aurait pu lui être favorable avec la question des gilets jaunes, de la crise sanitaire. Et on voit bien qu'il y a un problème d'agenda médiatique. Et on vient de le voir à la faveur de la séquence qui vient de se dérouler que la campagne pour le congrès LR a permis, alors il y a aussi le phénomène Zemmour, mais a permis de mettre sur le devant de la scène les thématiques de la droite. On a eu ce triptyque sécurité, immigration, identité française dont on nous a rabâché des oreilles depuis des semaines et on peut émettre l'hypothèse que si une primaire de la gauche était organisée en janvier ou en février, admettons, on aurait toute une séquence de campagne qui permettrait à la gauche au moins de reprendre la main sur cette question de l'agenda médiatique et d'imposer ces thématiques. Et peut-être que du coup, ça créerait un début de dynamique autour de ces thématiques. Et puis, en revanche, là où effectivement il y a des difficultés, on voit bien que les différents dirigeants de gauche ont du mal à s'entendre. Mais quand on regarde un petit peu dans le détail les sujets de préoccupation des électeurs, on voit que la porosité entre ces différents électorats n'est pas évidente puisqu'on a en fait des sujets de préoccupation qui sont assez différents. Les électeurs de Yannick Jadot mettent vraiment en priorité numéro un la question d'environnement, là où les électeurs d'Anne Hidalgo nous parlent d'abord de santé, d'éducation et d'avenir des services publics, là où encore les électeurs de Jean-Luc Mélenchon parlent d'inégalité sociale et de pouvoir d'achat. Donc on n'a pas complètement une convergence des électeurs. Mais une primaire pourrait peut-être justement permettre d'arbitrer, de dialoguer et de faire émerger une dynamique.
Le problème, est-ce que ça n'est pas aussi parce que tous ces candidats, les sept, ne sont pas capables, comme François Mitterrand autrefois, ou Lionel Jospin, ou François Hollande, ou Emmanuel Macron, de créer une dynamique autour d'eux?
Oui, effectivement, c'est un effet presque lié à la personnalité, j'ai envie de dire, parce que quand on regarde candidat par candidat, comment il est perçu par sa base électorale, il est plutôt bien vu. Voilà, si je prends l'exemple d'Anne Hidalgo, par exemple, nous on voit dans les enquêtes un peu plus qualitatives, quand on s'intéresse aux sympathisants PS, ils nous disent qu'elle a plutôt une bonne image, que c'est une femme de conviction, qu'elle a su faire à Paris des choses qu'elle avait envie de porter, quitte à se mettre à dos une partie de la population. Mais d'une part, son assiette est très étroite, et d'autre part, elle a certes pas une mauvaise image, mais elle n'a pas non plus une image hyper aspirationnelle qui permet d'élargir sa base électorale et d'aller au-delà, créer une dynamique, chercher des électeurs plus largement et susciter et créer l'unité. Et on peut dire un peu la même chose pour chacun des leaders de la gauche qui aujourd'hui ont du mal à élargir leur base électorale. Alors vous avez pris l'exemple tout à l'heure de François Mitterrand, Lionel Jospin, c'est vrai. Et François Hollande, je nuancerai un tout petit peu le propos, pas tant dans sa capacité à susciter l'adhésion, mais peut-être dans le rôle qu'il a pu jouer dans la fragmentation de la gauche qu'on observe aujourd'hui. Parce qu'on voit bien qu'il y a un sujet qui est celle de la réconciliation des différentes lignes idéologiques internes à la gauche. Et ça, c'est très frappant. À la fin du quinquennat Hollande, on avait quand même, enfin même plutôt d'ailleurs, rappelez-vous les frondeurs dont est issu Arnaud Montebourg, qui aujourd'hui est l'un des candidats à la présidentielle. Il est issu des rangs du PS. Jean-Luc Mélenchon est issu des rangs du PS. Donc on a plein de mouvances qui sont issues des rangs du PS. Et le quinquennat Hollande, avec des positions très radicales entre un Montebourg d'un côté et un Manuel Valls beaucoup plus libéral de l'autre, a contribué à fracturer cette gauche qui aujourd'hui apparaît dans l'incapacité de se réconcilier.
Alors, où sont passés les électeurs de gauche? On fait une pause, Adélaïde Zulfikar Pazic, et vous allez nous le dire.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Où sont passés les électeurs de gauche? Mon invité ce matin, c'est Adélaïde Zulfikar Pazic, directrice de BVA Opinion. En octobre dernier, dans le cadre d'une étude BVA pour la Fondation Jean Jaurès, vous aviez expliqué qu'il y avait chez une partie des électeurs de gauche une tentation du vote utile dès le premier tour en faveur d'Emmanuel Macron. Alors est-ce qu'il serait là aujourd'hui, les électeurs de gauche?
Il y a une partie, une partie des électeurs de gauche qui, déjà aujourd'hui, se projettent vers un vote en faveur d'Emmanuel Macron. Alors, c'était sans doute plus vrai au moment où on a réalisé l'étude que vous mentionnez pour la Fondation Jean Jaurès, parce qu'on était alors en pleine période de montée en puissance d'Éric Zemmour. Il y avait une sorte de chiffon rouge qui était agité, notamment par certains médias, de la possibilité d'avoir au second tour soit Éric Zemmour, soit Marine Le Pen, voire pourquoi pas, scénario catastrophe, les deux. Et je pense qu'il y a eu un cheminement intellectuel, conscient ou inconscient d'ailleurs, qui a été fait chez une partie des électeurs de gauche, qui était de se dire, si le risque demain c'est d'avoir des candidats qui sont vraiment en totale rupture avec mes valeurs républicaines, démocratiques au second tour, est-ce que j'ai pas intérêt quand même à assurer mes arrières, ne pas avoir un vote de conviction qui servirait pas à grand chose, parce que pour avoir 5, 6, 7% et prendre le risque au final qu'au second tour j'ai pas le choix d'un candidat démocratique, peut-être que il serait plus pertinent de voter Emmanuel Macron dès le premier tour. Aujourd'hui encore, cette tentation elle existe. Il y a des électeurs qui ont déjà fait cette bascule. Quand on regarde aujourd'hui comment se répartissent les sympathisants PS dans leurs intentions de vote. Certes, le gros des troupes, j'ai envie de dire, se dirige vers Anne Hidalgo, mais ça représente que 40%. 40% selon les sympathisants PS, donc c'est moins d'un sympathisant PS sur deux qui nous dit « je vais voter pour Anne Hidalgo au premier tour ». Les autres, ils se ventilent entre un peu Jean-Luc Mélenchon, un peu Roussel, un peu Montebourg, un peu Jadot. Et surtout, plus de 20% ont l'intention, dès le premier tour, le 10 avril 2022, de voter pour Emmanuel Macron.
Mais est-ce que ça voudrait dire que pour une partie des électeurs de gauche, voter à gauche, c'est devenu inutile ? Parce que la gauche n'a aucune chance d'être au second tour, que leur vote ne servira à rien? Ou bien est-ce qu'ils se sont définitivement reportés sur Emmanuel Macron pour qu'ils avaient voté en 2017? Il a été élu en 2017 par une grande partie des électeurs de François Hollande et du Parti Socialiste.
Tout à fait, vous avez raison de le rappeler. Alors j'ai envie de répondre les deux en général à votre question. Vous avez des électeurs qui sont partis chez Macron en 2017 et qui ne reviendront plus. Et il y a d'autres électeurs qui s'apprêtent à franchir le pas en avril 2022.
Ils sont quand même devenus bizarres, ces sympathisants socialistes, fin septembre dans un autre sondage BVA. Et Édouard Philippe arrivait en tête chez les sympathisants socialistes devant Martine Aubry. Comment l'expliquez-vous ?
Alors, je ne sais pas si bizarre est le terme adéquat pour les qualifier. Moi, je dirais plutôt qu'ils sont perdus. À mon sens, justement, cette incongruité, effectivement, de se dire que la personnalité préférée, entre guillemets, en tout cas, qu'ils souhaitaient voir le plus jouer un rôle à l'avenir, était Édouard Philippe, montrait, à mon sens, une espèce d'un état de déshérence, avec justement cette espèce de projection vers de toute façon, on sait qu'on n'aura pas de candidat représentant la gauche au second tour. On aura le choix entre soit Emmanuel Macron, pour qui certains vouent une certaine animosité, ou alors des candidats d'extrême droite, ou alors un candidat de droite un peu radical libéral. Dans ce contexte-là, puisque le moindre mal, si je puis dire, c'est peut-être Édouard Philippe qui a une ligne claire dont on salue le bilan en tant que Premier ministre. Voilà, il a été vraiment perçu comme quelqu'un qui a fait le job, qui a été droit dans ses bottes, etc. Donc, à mon sens, ça traduit plus une espèce de, encore une fois, de déshérence, de désenchantement, de désillusion des sympathisants socialistes. En revanche, on peut peut-être escompter un peu de manière paradoxale un effet aussi dynamique lié à la dynamique de Valérie Pécresse. Je m'explique. Je pense que ce qui a vraiment conduit certains électeurs de gauche à envisager un vote utile à la faveur d'Emmanuel Macron dès le premier tour, c'était vraiment cette crainte qu'il y ait des candidats plutôt en rupture par rapport à leurs valeurs au second tour. Je pense à Éric Zemmour et à Marine Le Pen. Comme là, il y a des sondages qui semblent rendre moins incontournable un second tour Macron-Le Pen et qui dessine la perspective potentielle d'un second tour Macron-Pécresse, qui est plus compatible, j'ai envie de dire, avec des valeurs républicaines, démocratiques, et ben c'est pas impossible que par effet de bord, une partie des électeurs de gauche se disent bon, ok, il y a plus péril dans la demeure. Donc là, je me sens moins tenu, convoqué pour un vote en faveur de Macron. Je me sens plus libre de mon choix et je peux me faire plaisir et avoir un vote plus idéologique. Donc on peut avoir paradoxalement une sorte de dynamique créée par la dynamique Pécresse.
Mais à ce moment-là, ça voudrait dire que Emmanuel Macron risquerait de ne pas être au second tour.
C'est effectivement une possibilité. Pour une partie aussi de l'électorat de gauche, il ne faut pas perdre de vue que Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, c'est bonnet blanc et bon bonnet. Enfin, il y a quand même Emmanuel Macron est perçu quand même comme un homme de droite, donc droite républicaine, compatible avec les valeurs de la République, mais un homme de droite. Donc c'est pour ça que je dis que voilà, c'est une hypothèse que j'émets, mais elle n'est pas impossible.
Merci Adélaïde Zulfikar-Pazic. Je rappelle que vous êtes directrice de BVA Opinion. On fait une pause, on se retrouve juste après avec un avocat, c'est Fabrice Epstein. Il publie Rock'n'Roll Justice, c'est la première histoire judiciaire du rock.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Fabrice Epstein, bonjour.
Bonjour Frédéric Taddeï.
Vous êtes avocat au barreau de Paris et chroniqueur à Rock'n'Folk et vous avez eu la bonne idée d'écrire un livre intitulé Rock'n'Roll Justice qui sort à la manufacture de livres. C'est une histoire judiciaire du rock. Il faut dire qu'il y a eu des procès, des scandales retentissants dans l'histoire du rock et dans tous les domaines. Plagiat, escroquerie, affaires de drogue, apologie du suicide, indécence, exhibitionnisme, même meurtre.
Oui, c'est vrai, finalement le rock, c'est une matière qui est tout à fait judiciaire et les artistes ont franchi la ligne blanche à de nombreuses reprises. Et c'est aussi des gens qui ont stimulé le droit, qui ont essayé de faire avancer la jurisprudence.
Commençons par l'affaire de plagiat la plus célèbre. C'est une chanson que tout le monde connaît. On va écouter les premières mesures, My Sweet Lord de George Harrison. Il y en a eu plein des histoires de plagiat, mais celle-ci, elle est formidable parce qu'effectivement, très vite, on s'aperçoit que ça ressemble étonnamment à He's So Fine, un autre tube, mais des chiffons. He's so fine. L'auteur, compositeur de He's So Fine, c'est Ronnie Mack. Il était mort à l'époque. Alors comment s'en est sorti George Harrison ?
George Harrison, il s'en sort plutôt mal parce qu'il est condamné pour plagiat subconscient, mais c'est une affaire qui dure assez longtemps.
Subconscient ? Attendez, arrêtez. Dites-nous ce que c'est qu'un plagiat subconscient.
Un plagiat subconscient, c'est quand quelqu'un a entendu une chanson à très nombreuses reprises, qu'il ne s'en souvient plus, mais que c'est encore dans sa tête et que c'est avec cette base-là qu'il compose la chanson My Sweet Lord.
Ah oui,
donc finalement,
y a pas de
My Sweet Lord, c'est une ressucée.
Voilà. Il n'y a pas,
pas de mauvaise intention. Ceci dit, il a tout à fait copié Is So Fine. Donc le voilà, plagiaire.
Ouais. On lui avait proposé à un moment une solution, c'était de racheter la maison d'édition d'Is So Fine. Il aurait pu la racheter, comme ça,
exactement.
Il éteignait le procès.
Et c'était une excellente solution. C'est Alan Klein qui lui avait soufflé cette solution, le manager des Beatles et le manager d'Harrison à cette époque. Et en fait, la succession Is So Fine a refusé. Mais plus tard, ce qui va se passer, c'est que Alan Klein lui-même va acheter les droits de cette chanson. Pourquoi ? Parce qu'il anticipe que Harrison va être condamné, et il se dit que dans cette affaire, il va gagner un gros pactole.
Le propre, propre manager de George Harrison, quand même.
Exactement, exactement. Sauf que le juge le surprend, et qu'il va finalement mettre la balle au centre, et considérer que ce qu'a payé Alan Klein pour Is So Fine, c'est l'égal de ce que George Harrison doit payer à Alan Klein. Donc, balle au centre.
Justement, vous parlez d'Alan Klein. Ça fait partie de ceux qui ont la réputation d'être des grands escrocs de l'histoire du rock. Cette histoire, elle est jalonnée d'hommes d'affaires véreux qui ont escroqué les artistes dont ils étaient censés défendre les intérêts. Il faut dire qu'ils étaient tous très jeunes. Hein. Elvis Presley, les Beatles, les Rolling Stones, ils étaient prêts à signer n'importe quoi.
Oui, ils étaient prêts à signer n'importe quoi. Ils étaient jeunes, ils avaient beaucoup d'idées, énormément de talent, et ils se sont fait rattraper par plus malin qu'eux. On fait face au colonel Parker, à Albert Grossman, à Alan Klein, et c'est des gens qui ont vraiment le sens des affaires.
Le colonel Parker, il est célèbre puisque c'est lui qui se targuait d'avoir fait Elvis Presley. Les héritiers d'Elvis ont dû aller en justice pour pouvoir le relever de ses fonctions. Hein. Il lui reprochait quoi exactement ? Il avait tout piqué
il reprochait d'avoir tout piqué. D'abord, il a eu cette excellente idée, Parker, de vendre les droits du catalogue Elvis à RCA, donc finalement Elvis touchait plus de royalties, et sur son merchandising il avait quasiment la majorité des droits des sociétés. Donc finalement, quand Elvis est mort, la succession était arabustée par le fils, qu'ils ont dû se mettre à table la succession Elvis, Parker et RCA. Et celui qui a gagné de l'argent dans cette histoire, c'est encore le colonel Parker. Donc, pour être relevé de ses fonctions, il a fallu le payer. Et le juge a tout de même dit que ça choquait jusqu'à la conscience humaine.
Oui, en effet. Alan Klein, que vous citiez, lui, il est prodigieux puisqu'il arrive à escroquer les Rolling Stones d'abord et les Beatles ensuite. Les Rolling Stones, ils se retrouvent propriétaires du catalogue de tous leurs morceaux avant 1971. Et aux Beatles, il arrive à leur ponctionner 20% de leurs revenus. Hein.
Oui, alors pour les Stones, effectivement, c'est peut-être le monde des affaires qui fait ça. On avait besoin d'un bailleur de fonds, Alan Klein était là, il a mis l'argent. Les Stones ont signé un contrat peut-être à la va-vite, ils se sont fait avoir et il détient ses droits. Ensuite, pour les Beatles, ils ont appelé Alan Klein à la rescousse parce que c'était le manager le plus couru de cette époque. Il a fait du bien aux Beatles, il a renégocié un certain nombre de droits que Brian Epstein avait mal gérés. Et le premier manager des Beatles à Liverpool. Et ensuite, oui, au passage, il se servait. Ça a duré 5 ans, la séparation des Beatles. Et pendant ces 5 ans, Alan Klein s'est allègrement servi. Ça a été plus loin. Alan Klein, il était aux côtés de George Harrison dans le cadre du concert pour le Bangladesh, qui est le premier concert à visée humanitaire. Et ça ne l'a pas empêché de détourner une partie de l'argent qui aurait dû arriver au Bangladesh.
Les Sex Pistols, le groupe phare du mouvement punk, le 4 novembre 1977, se retrouvent devant le tribunal parce que leur premier album s'intitule Nevermind the Bollocks. C'est écrit en gros sur la pochette. En anglais, ça peut se traduire, vous me pardonnerez l'expression, par « on s'en bat les couilles ». Et évidemment, ils sont attaqués pour publicité indécente. Comment vont-ils s'en sortir ? Parce que eux, être innocentés.
Ah oui, ils vont être innocentés. D'abord, ils ne sont pas poursuivis, eux, en tant que tels. Celui qui est poursuivi, c'est le vendeur du disque à Londres, qui s'appelle Chris Seal, et également le label des Sex Pistols, qui est le label Virgin Records de Richard Branson. Et ils vont avoir une défense très intelligente, ils vont dire très bien, je vous dites que la pochette est indécente, soit, mais il y a 1 million d'acheteurs et personne ne s'est plaint. Des milliers de gens passent devant ma boutique et personne ne dit que c'est indécent. Donc là, déjà, il y a une petite faiblesse. Et ensuite, ils vont prendre attache avec un professeur d'anglais qui, lui, va expliquer au tribunal ce que veut dire bollocks. Alors, bollocks, c'est une petite chose, une orchidée, et ça veut dire n'importe quoi. Et ça veut dire aussi une façon de désigner les prêtres. Pourquoi ? Parce que les prêtres disent parfois n'importe quoi. Alors, on a une série d'arguments. On en a un aussi qui est plutôt intelligent, qui est que les Sex Pistols et leur défense dit « Mais vous nous reprochez l'indécence, mais le Guardian et des journaux qui ont pignon sur rue et qui sont très bien éduqués citent et font état de cette pochette et ils ne sont pas avec nous au tribunal. » Et finalement, les juges n'ont d'autre choix que d'acquitter l'ensemble. Et plus tard, ce fameux Indecent Advertisement Act va être annulé et on n'aura jamais de problème à reprocher aux Sex Pistols.
En France, il y a des procès aussi, mais alors ils sont très différents, c'est typiquement français. Bob Dylan, par exemple, a été mis en examen en France en 2012 pour incitation à la haine raciale. C'est quand même incroyable.
Oui, bah c'est la spécialité française. Incitation à la haine raciale, ça vient de très très loin, parce que Dylan, il fait une interview pour le magazine Rolling Stone américain, où il dit que aux États-Unis, il y a un certain nombre de problèmes, que lorsqu'on est noir, on sent le sang du Ku Klux Klan, lorsqu'on est juif, on sent le sang nazi, et lorsqu'on est serbe, on sent le sang croate. Cette interview, elle est traduite dans le magazine Rolling Stone France, et là, le Conseil représentatif des Croates de France considère que Dylan incite à la haine raciale envers les Croates, et donc saisit un juge, et Dylan se retrouve mis en examen pour incitation à la haine, ainsi que injure. Alors Dylan, il est courageux, hein, il se présente devant le juge, il est mis en examen de façon automatique, il reçoit tout de même la Légion d'honneur au passage, il fait quelques concerts, et il a une défense fantastique. Il dit, le magazine Rolling Stone France, je ne le connais pas, j'ai parlé au magazine américain, débrouillez-vous. Et le juge n'a d'autre choix que de lui donner un non-lieu.
Un problème qui revient souvent dans votre livre, Fabrice Epstein, c'est qu'est-ce qu'un groupe, au fond? Le rock a inventé le groupe de rock. Mais quelle est son entité juridique? Quand Mick Jagger et Keith Richards virent Brian Jones, qui est le fondateur du groupe, est-ce qu'ils en ont le droit? Qui est le propriétaire de la marque? Le problème va se poser pour les Beatles aussi, quand ils commencent tous à se détester, ou à Pink Floyd, qui va se scinder en deux et chacun estime qu'il est Pink Floyd.
Oui, effectivement, Pink Floyd, c'est l'exemple typique, c'est-à-dire que lorsqu'en 85-87, ils commencent à se disputer, Waters fait un procès et dit « c'est moi Pink Floyd ». Il gagne en première instance, ensuite il perd en appel et les autres membres peuvent utiliser la dénomination Pink Floyd. Mais finalement, c'est le public qui choisit. Le public ne souhaite pas aller voir Waters à cette époque, mais est très content de retrouver les trois et de voir Pink Floyd dans sa mouture encore assez exceptionnelle. La question va se poser plus tard pour Pink Floyd, parce que vous avez une société qui fait des engrais en Amérique du Sud et qui appelle ses engrais Pink Floyd. Et là, le tribunal lui dit « mais attendez, vous ne pouvez pas utiliser ce terme, parce que même si ce n'est pas une marque déposée, c'est tellement en lien avec le groupe Pink Floyd que la confusion dans l'esprit du public serait trop grande ». Donc, qu'est-ce que c'est un groupe? C'est aussi une société qui détient des droits. En tout cas, Pink Floyd, à un moment, est constitué sous forme de société. Et vous parliez des Rolling Stones. Les Rolling Stones, effectivement, c'est une société, une cash machine, des droits de détenus, du merchandising. Donc, à un moment, il faut prendre les devants, s'atteler avec de bons avocats et mettre ça d'équerre.
Merci Fabrice Epstein. Rock'n'Roll Justice, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affaires qui sont traitées à l'intérieur. On n'en a raconté que quelques-unes. Ça vient de paraître à la manufacture de livres. Merci, bonne journée.
Merci Frédéric Tadi. Au revoir.
Europe 1. C'est arrivé, cette semaine arrive à son terme. Je laisse la place aux grandes voix, animées par Pierre de Villeneuve.
Bonjour Frédéric.
Quel est le programme, mon cher
Alors,
Pierre?
Dans le désordre, les précieuses ridicules à gauche, Macron qui se fait doubler par la droite et le référendum calédonien.
Eh bien, bonne émission.
Merci.